Gloire à Dieu. On va ouvrir la parole ce matin et je voudrais mettre ou remettre une vérité biblique importante sous nos yeux. Cette vérité biblique, on la connaît. Mais est-ce qu'on la réalise vraiment? Est-ce qu'on la comprend? Vous allez voir, quand on va la lire ensemble, vous allez me dire, on va tous dire, et moi le premier, mais je le sais, nous le savons, mais... En y réfléchissant, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, le pourquoi de ma réflexion, je me pose la question, est-ce que parfois il y a des choses que nous savons, parce qu'on l'a entendu prêcher, parce qu'on l'a lu nous-mêmes dans la parole, mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Est-ce qu'on le comprend vraiment? Et cette vérité biblique, je voudrais la relier à une prière qu'un jour le roi David a faite. Alors regardez, on va lire ensemble deux versets en introduction. D'abord la vérité biblique, on l'a dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Et verset 13, Hébreux chapitre 4, verset 13, ça va s'afficher derrière moi. Voilà ce que dit l'auteur. Voilà ce que dit l'auteur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu entend tout, Dieu connaît tout. On le sait, mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Et je voudrais relier cette vérité, je vais y revenir, je voudrais la relier à une prière qu'un jour David a faite, dans un moment certainement, un moment entre lui et Dieu, dans le psaume 86 et au verset 11. Je prends juste ce qui m'intéresse, parce que tout ce psaume, il est magnifique. Voilà ce qu'il dit, psaume 86, verset 11, David dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. » Et c'est ça qui m'intéresse. « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Alléluia. « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Quand j'ai lu et relu cette vérité qu'on a lue là dans l'Épître aux Hébreux, « Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte », ça m'a interpellé. Parce que je l'ai dit en introduction, on le sait, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça m'a interpellé parce que c'est fou dans la parole de Dieu, le nombre de textes où les questions de gens qui se sont cachés, où les questions de gens qui ont dissimulé, il est question de gens qui se sont déguisés. Reprenez la parole de Dieu, prenez une concordance et regardez au mot déguisé, vous allez voir, ça revient, mais alors un nombre de fois étonnant, vous voyez. La Bible dit que tout est nu et à découvert, et vous trouvez des tas d'histoires dans la Bible où vous avez des gens qui ont caché, dissimulé, maquillé, qui ont essayé un peu de se déguiser, de faire en sorte que certaines choses ne se voient pas. Voyez, et c'est surprenant. Et vous trouvez ça dès le départ. Dès le départ, dans le jardin d'Éden, vous vous rappelez, après la chute, quand Dieu a parcouru le jardin sur le soir, il a appelé Adam et Ève, « Où es-tu ? » Et puis la Bible nous dit, quand ils ont entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis se cacher. Vous voyez ? Premier réflexe. C'est comme s'il y avait dans l'être humain, depuis toujours, depuis la chute, c'est comme s'il y avait ce mauvais réflexe qui était là, que de vouloir cacher, de vouloir dissimuler, de vouloir parfois se déguiser, de faire semblant, parce que tout ça, ça va avec. Vous voyez ? Et on le trouve dès le départ. J'ai noté aussi, alors je vais vous citer pas mal de textes, je vais faire travailler le vidéoprojectionniste, merci Jérémy. Hein? Mais rappelez-vous cette histoire de Akab. Vous savez qu'Akab, ça a été un mauvais roi. En tout cas, ça n'a pas été un bon roi. Quand on pense à Akab, on pense à Jézabel. Et vous rappelez qu'à un moment donné, je vous cite la référence, dans 1 Roi chapitre 22, il est question d'un épisode où il va, avec le roi Josaphat, combattre les Syriens pour reprendre la ville de Ramoth en Galaad. Et il va lui prendre une idée subite. Il va dire à Josaphat, écoute, mets tes habits royaux, mais moi je vais aller au combat en me déguisant. C'est bizarre de vouloir se déguiser pour aller au combat. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, dans le combat, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Il avait beau être caché, il avait beau être déguisé, une flèche l'a atteinte. Voyez ? Comme quoi, ça ne sert à rien. Hein ? Voyez ? Ça sert à rien. Rappelez-vous aussi de David, justement, qui alors lui, dans une situation un petit peu particulière, quand il a commis adultère avec Bathsheba, rappelez-vous avec quelle... Avec quelle force il a essayé de cacher son méfait. avec quelle force il a essayé de cacher son péché. Il a été fort quand même, hein. Pourtant c'est le roi David. Et c'est pour ça que je comprends qu'à un moment donné, il va dire « dispose mon cœur à la crainte de ton nom ». Cet homme qui commet un adultère, mais quand Bathsheba vient lui faire dire « je suis enceinte », parce que si elle n'avait pas dit ça, le problème c'est que en disant « je suis enceinte », voyez, vous savez, à un moment donné, il y a tout qui sort, hein. Ce qui est caché sort. Et là, lui fait dire « je suis enceinte ». Et vous rappelez un petit peu tout ce qu'il va faire, les manigances qu'il va employer. Il va faire revenir du champ de bataille le mari, et puis il va l'accueillir, il va même lui offrir des cadeaux. Relisez les textes, les détails, vous allez voir. Je vous dis, mais c'est pas possible. Hein. Il va lui offrir des cadeaux, et puis il espérait que le soir, le mari rentrerait chez lui. Il n'y rentre pas, le lendemain, ça recommence. Il pensait que le mari, eh bien, il n'y rentre pas. Alors il va le faire boire, enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire. Hein. Et puis, hein, il le fait venir, mais pourquoi tu ne rentres pas chez ta femme? Vous voyez, en fait, ce n'est pas lui qui pensait, c'était pas au mari qui pensait, c'était à lui. Voyez. Et puis, bon, mais voyant qu'il n'y a rien à faire, vous rappelez ce qu'il fait, hein, il lui donne une lettre entre ses mains en lui disant tu donneras ça à ton chef. Et puis, en fait, c'était sa propre condamnation. Vous voyez jusqu'où ça a été pour cacher la chose, hein. On sent bien que chez l'être humain, il y a cette nature à vouloir cacher. Et alors, rappelez-vous, quand vous allez dans le Nouveau Testament, Jésus avec les religieux, ça n'a jamais trop collé. Et à un moment donné, regardez ce que Jésus va dire, il ne va pas y aller par quatre chemins. Il est dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, ils se moquaient de lui. Et regardez ce que Jésus va leur dire. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Voyez, autrement dit, il t'a dit, vous cherchez à paraître, vous avez un bel habit, un beau déguisement religieux, hein, quand on vous regarde, ça a l'air pas mal, mais Dieu connaît vos cœurs. Voyez, Dieu connaît vos cœurs. Et puis, regardez, il y a un autre texte qui m'a interpellé, et je voudrais peut-être m'y arrêter un petit peu plus particulièrement ce matin, parce que celui-là, il m'a vraiment arrêté, je crois qu'il y a des choses pour nous ce matin à considérer. On retourne dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 14. Il y a une histoire sur laquelle on ne s'arrête pas très souvent, qui est là, et vraiment, j'ai médité dessus, j'y ai réfléchi, parce que ça m'a arrêté. Vous savez, quand vous lisez la Bible et que vous avez un texte qui vous arrête, réfléchissez-y dessus. Ça veut dire que Dieu veut vous parler. Et là, cette histoire, regardez, on ne s'arrête pas très souvent, mais elle est très intéressante. Il est dit, dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, et je vais en parler un petit peu de ce Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi, et encore une fois, déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam et va à Silo. Voici, là est Akija le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel. Hein, graisse-lui bien la pâte un peu au passage, hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Et notez bien, Akija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, c'est très intéressant ça, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, regardez bien, elle se donnera pour une autre. Lorsqu'Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. » Vous imaginez un peu le choc, là? Vous arrivez, et puis l'autre, il n'y voit rien, et il dit, « Entre, femme de Jéroboam. » Oh, le choc, vous voyez? Il dit, « Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé, écoutez bien, de t'annoncer des choses dures. » Et vous lirez la suite, on ne va pas le faire, vous prendrez ça à la maison. Effectivement, ce qui va lui être dit va être sévère, va être dur. Alors peut-être quelqu'un va me dire, waouh, mais c'est un peu raide quoi, comme histoire. Ce à quoi je répondrai, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que quand vous lisez les deux chapitres qui précèdent, le chapitre 12 et le chapitre 13, vous allez vous rendre compte que Jéroboam, c'était un homme que Dieu avait béni. C'était un homme sur qui Dieu avait étendu sa main. Voyez, le problème, c'est qu'il n'a pas répondu à la bénédiction de Dieu comme il aurait dû. À un moment donné, vous lirez le texte, je ne vais pas m'arrêter sur le contexte, mais à un moment donné, il s'est détourné de Dieu. Et non content de cela, de se détourner lui de Dieu, il a fait détourner le peuple de Dieu. voyez, il a fait plonger le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Et au chapitre 13, il va y avoir un épisode un petit peu particulier, vous le lirez, où quelque part Dieu va chercher à attirer son attention. Dieu va chercher à parler à cet homme pour qu'il réagisse, parce qu'il est en train de s'égarer, d'égarer le peuple, et Dieu va chercher à lui parler. Vous savez, Dieu cherche à nous parler, hein. Des fois, il peut arriver certaines choses qui sont là, et elles sont là pour nous interpeller, elles sont là pour nous faire réfléchir. Voyez, et lui, Jéroboam, vous lirez 1 roi 13, il est arrivé quelque chose d'assez particulier à un moment donné. Alors, bon, je vais le dire, à un moment donné, sur l'autel, il va étendre sa main et sa main va rester sèche. Là, figée, vous voyez. Et il ne va plus pouvoir la retirer. Et il va falloir que ce soit l'homme de Dieu qui fasse quelque chose pour qu'il puisse retirer sa main. Et ça, c'était pour le faire réfléchir, vous voyez. Et la Bible nous dit, à la fin du chapitre 13, regardez, après cet événement, alors ce que je viens de dire là, et un autre qui est un autre, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux, prit parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir, il les consacrait prêtres des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Vous voyez, après cet événement, hein, plutôt que de s'humilier, plutôt que de revenir à Dieu, de se repentir, de dire à Dieu, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi je me suis détourné de toi, mais Seigneur, pardonne-moi. Ben, plutôt que de faire ça, il s'est entêté, il s'est endurci. Vous savez, s'entêter, s'endurcir, c'est terrible. C'est terrible. Vous voyez, et c'est là-dessus qu'arrive ce qu'on a lu dans 1 roi 14, l'histoire du fils malade. Donc, quelque part, vous voyez, quand on resitue le texte dans son contexte, on se rend compte que quelque part, ce n'était pas si dur que ça. Il y avait des choses qui s'étaient passées. Et dans cette histoire, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé, et j'y vais y revenir, parce que quand même, c'est là pour nous faire réfléchir. Vous avez remarqué qu'encore une fois, il est question de se déguiser. Tu vas aller voir l'homme de Dieu, et tu vas te déguiser pour y aller. On a lu tout à l'heure, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, mais cette histoire, elle fait ressortir cette vérité à merveille. Voyez, alors, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Première chose, je suis frappé par la précision du Seigneur. Par la précision du Seigneur. Regardez, 1 roi 14, verset 5, si tu peux me le remettre. Le verset 5, Dieu est d'une précision. L'Éternel avait dit à Akija, regardez bien, la femme de Jéroboam. Voyez, Dieu ne se trompe pas, hein. Ce n'est pas la voisine qui est arrivée, ce n'est pas la cousine qui est arrivée, non, non, la femme de Jéroboam. Elle va venir te consulter, et Dieu est précis, au sujet de son fils. Voyez, et elle va dire, parce qu'il est malade. Alors tu vas lui parler de telle manière, et quand elle arrivera, voyez, Dieu lui donne un détail supplémentaire, elle se fera passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand elle avait à peine franchi le seuil, qu'elle s'entend dire par quelqu'un qui ne voyait pas, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Dieu est précis, hein. Je crois que c'est important de réaliser que on ne peut rien cacher à Dieu. Tous les détails, il les connaît. Tous les détails de nos vies, toutes les situations, toutes les circonstances, tous les tenants et les aboutissants de A jusqu'à Z, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Je crois que ça, c'est important de le réaliser. Parfois, vous avez des gens, ils vous racontent les choses, mais à leur façon, vous voyez, ils vous racontent les choses à leur sauce. Alors, on vous dit ce qu'on a envie de vous dire et puis on ne vous dit pas le reste, vous voyez. Mais vous savez, si ça marche avec les hommes, ça ne marche pas avec Dieu, ça. Parce que Dieu, lui, on ne peut pas le tromper, vous voyez. Peut-être que, imaginez, moi je ne sais pas, imaginez que Dieu n'avait rien dit à Akija, cette femme, elle aurait pu arriver en disant, tu sais, mon fils est malade, tout ça. Elle aurait raconté certaines choses, mais pas tout. Elle n'aurait pas dit, par exemple, qu'elle était la femme de Jéroboam. Vous voyez, parce que, elle aurait occulté certaines choses. Mais Dieu savait tout. Dieu savait tout. Je crois que c'est important de réaliser que Dieu connaît tout dans les moindres détails. Et je me dis, mais on sait cette vérité, mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Il y a des histoires dans la Bible comme ça où moi je suis frappé de voir la précision du Seigneur. Vous avez celle-là. Permettez que je vous en cite 2 ou 3 autres. Et je vous les cite pour que ça puisse nous interpeller. Rappelez-vous, j'en parle souvent ces dernières semaines, ces derniers mois, excusez-moi. Ananias et Saphira. Alors on va relire quelques versets. Un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Juste là, tu peux me remettre le verset 2. Voilà, me le laisser juste quelques instants. Regardez ce qui se passe ici. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Ça s'est passé en petit comité entre lui et sa femme à la maison. Ils se sont concertés tous les deux. Personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu, sauf Dieu. Et puis la suite continue, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Comment ça se fait qu'il sait ça, lui? Il n'était pas là, Pierre. Et moi, je suis frappé de voir, là encore une fois, la précision dans ce que Pierre dit. La précision. Et ça montre que, ça s'est passé, là, entre deux personnes, dans un coin reculé, personne ne le voyait à la maison, personne n'a entendu, personne n'a vu. Et voilà que Pierre ressort devant tout le monde ce qui s'était dit passer à la maison. Comment il le sait? Parce que Dieu le savait. Parce que tout est nu et à découvert. Et alors qu'il pensait n'être que deux à savoir cela, là devant tout le monde, Ananias découvre avec stupéfaction que tout le monde est au courant. Vous voyez, ce qu'on veut cacher, un jour ou l'autre ça sort. Hein. Un jour ou l'autre ça sort. Ça s'est fait en catimini, ça s'est fait là dans une maison, dans le secret, personne ne l'a vu. Et là ça sort devant tout le monde. Et vous vous rappelez qu'après, trois heures après, la femme va arriver et ça va être la même chose. Vous voyez, moi ça m'interpelle. Vous avez là... Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, vous avez là une parole de connaissance. Parole de connaissance. C'est important que, au niveau des dons spirituels, il y ait de la précision. Que Dieu nous donne des paroles de connaissance. Des dons spirituels qui peuvent s'adresser à tout le monde, on ne sait pas trop. Des fois, c'est un peu... Bon. Mais quand c'est précis, quand c'est pour une personne... Moi, je crois en un Dieu de précision. Et que Dieu nous inspire, je m'y mets dedans, vraiment pour nous donner des dons spirituels précis, qui s'adressent à une personne. Ça ne peut pas concerner 50 personnes, parce que quand c'est le cas, ça touche. Vous voyez ? Quand c'est le cas, ça touche. Donc là, on voit que cette histoire, Dieu était au courant. Rappelez-vous, j'ai parlé de David, son péché avec Bathsheba. Mais rappelez-vous quand Nathan est venu le trouver. Entre autres, il va lui dire ceci, 2 Samuel 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Regardez, tu as frappé de l'épée Uri le Hessien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Mais comment il sait ça, lui? Ça s'est fait dans le plus grand secret. Personne ne l'a su, personne ne l'a vu, ce qui s'est passé avec Bathsheba, mis à part peut-être les serviteurs de chez David qui étaient là ce jour-là, qui ont vu une femme rentrer, mais vous savez qu'à cette époque-là, les serviteurs, hein, ils disaient rien. Mais comment il a su, hein? Comment il a su ce qui s'est passé avec Uri, hein, toute la manigance? Il n'était pas là, Nathan. Mais Dieu lui a révélé. Dieu lui a révélé. Et là... Alors que quelque part ça s'était passé là encore en secret, en cachette, tout sort au grand jour. Et tout est à nu et à découvert. On ne peut rien cacher à Dieu. Regardez, rappelez-vous aussi de cette histoire de Géasi. Vous connaissez l'histoire de Géasi, l'histoire de Naaman. On aime bien l'histoire de Naaman. En général, bon, on aime bien mettre en évidence la guérison de Naaman, le lépreux. Mais en général, on oublie la fin de l'histoire. Rappelez que Naaman, il était tellement heureux d'avoir été guéri qu'il va vouloir faire un cadeau, un don à Élisée. Pourquoi pas? Bon, Élisée n'en veut pas. Et puis, Géasi voit ça. Je me dis qu'à l'époque, la vie de prophète et peut-être la vie de serviteur de prophète, ça ne devait pas être le Ritz, quoi, voyez, ça ne devait pas être... les fins du mois devaient peut-être être difficiles, quoi, hein. Bon, et lui voit ça, il se dit, pas possible. Pourquoi mon maître, il a ménagé ce Syrien? En plus, c'est un Syrien. Mais il fallait accepter. Ça aurait mis du beurre dans les épinards. Pour une fois, on aurait pu se manger quelques entrecôtes. Hein, Et lui, il veut pas, quoi. Et puis, vous savez ce qu'il va faire? Il va lui courir derrière. il ne va rien dire à personne. Il va faire ses petites affaires. Il va mentir. Il va mentir. Mon maître m'envoie te dire. Le maître, il n'avait rien dit du tout. Il n'avait rien dit du tout. Il y a des jeunes gens qui sont arrivés, qu'on s'en a donné ceci, qu'on s'en a donné cela. Ben, j'allais dire, l'autre, il est encore sur l'émotion de sa guérison. Ben, allez, il donne. Lui, naïvement. Et puis, le Géasi, tranquille, il va cacher ça dans sa maison. Moi, je l'imagine, là. Vous voyez, filou en plus. Et puis, rappelez-vous ce qui se passe. Et moi, ce verset, il m'a souvent interpellé. Il fait ses petites affaires, il fait ses petites magouilles, il fait ses petits trafics. Il est dit, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'autre. Oh purée. Vous savez, Dieu nous donne des occasions de nous rattraper. On peut faire des erreurs tous, moi, nous. Mais Dieu nous donnera toujours l'occasion de nous relever. Et quand Élisée lui dit, mais d'où viens-tu? Mais il lui donne une occasion de dire, écoute, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais, quand j'ai entendu ça, ça a été plus fort que moi. Ben écoute, mais je te demande pardon, vous voyez, je me repens, vous voyez. Il avait l'occasion, là, comme Saphira, hein, 3 heures après, quand elle est arrivée, pareil, vous voyez. Dieu nous donne toujours l'occasion de nous ressaisir. Sauf que lui, oh non, 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 j'ai été nulle part, voilà. Et Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Oh! Comment tu sais ça, toi? Parce que Dieu sait tout. Dieu voit tout. On ne peut rien lui cacher. Voyez. Et moi, ça m'interpelle, cette histoire. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Vous vous rendez compte? Il est sorti de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Élisée, ça veut dire Dieu de mon salut. En principe, on ne vient pas au contact de Dieu, de celui qui s'appelle Dieu de mon salut, pour ressortir avec la lèpre. En général, on vient pour ressortir avec la bénédiction. Et là, c'est le contraire qui se passe. Ça montre une chose, c'est que Dieu est un Dieu d'amour, mais les choses de Dieu, c'est sérieux. C'est sérieux. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour... on ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi, ce qui m'interpelle, je vais te faire travailler. Tu peux me mettre le verset 25? Donc, il est serviteur, de Élisée, de l'homme de Dieu, de celui qui veut dire Dieu de mon salut. On est tous, ce matin, si nous avons donné notre cœur au Seigneur, des serviteurs et des servantes du Dieu de notre salut. Tous. Si ce n'est pas le cas ce matin pour quelqu'un, Dieu te donne l'occasion de donner ton cœur au Seigneur. Et je t'encourage à le faire. Dieu repousse personne, quoi qu'on ait fait, même si peut-être il y a eu des choses pas bien glorieuses, mais tu peux t'approcher du Seigneur, il ne te rejette pas ce matin. Alléluia. Il est serviteur et il fait ses petites affaires, il fait ses petits trafics, il fait ce qu'il n'aurait pas dû. Et notez bien, et moi cette phrase, elle m'a toujours fait réfléchir. Puis il alla se présenter devant son maître. Non, c'est le verset d'avant. Voilà. Il alla se présenter à son maître. Et là, il y a quand même une leçon pour nous. Tous les dimanches, on vient se présenter devant Dieu. Alors, on n'attend pas le dimanche pour le faire, j'espère. Mais je me dis, mais est-ce que cette scène, elle ne se reproduirait pas parfois? La semaine, on fait ses petites affaires, ses petits trafics, ses petites, excusez-moi, magouilles, des choses que peut-être on ne devrait pas. Et puis le dimanche, on vient, on se présente devant Dieu comme si de rien n'était. Mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et ce matin, je crois que c'est important de le réaliser. Mon but, c'est pas de nous faire peur ce matin, c'est pas de se dire, oulala, mais c'est de dire, mais Seigneur, je le sais, mais Seigneur, tu vois tout, tu sais tout, tu entends tout, on ne peut rien te cacher. Alors Seigneur, je ne veux pas me comporter en Géasi, je ne veux pas me comporter comme David dans le texte qu'on a vu, je ne veux pas être un Ananias, une Saphira, faire des choses et puis donc je sais très bien que devant toi ça ne passe pas, je sais très bien ce que dit ta parole et puis je vais me présenter devant toi, alléluia, gloire à Dieu. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je reviens à mon texte de 1 Roi 14, cette histoire-là. Madame Jéroboam. On a lu, l'Éternel dit à Akija, Je te fais travailler, excuse-moi. 1 Roi 14, verset 5. L'Éternel dit à Akija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils. Moi, ça m'interpelle cette parole parce que je me dis, waouh, quand même ce Akija là, il avait une communion avec Dieu. Pourtant Akija, je ne sais pas, bon allez, on va être honnête, je vais le dire pour moi. Akija, bon, vous me dites Élie, oui, vous me dites Élisée, ok. Vous me dites Abraham, ok, je sais qui c'est. Vous me dites, vous voyez, ces grands noms, ok. Akija, ça vous dit quelque chose? C'est pas un grand nom de la Bible, Akija. Mais on sent que c'est un homme qui avait une telle relation avec Dieu, une telle communion avec Dieu, que Dieu peut lui révéler ce genre de choses-là. Et vous avez ici, dans ce verset, la confirmation de ce que dira le prophète Amos. Regardez, Amos 3, verset 7. Il va dire ceci, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu ne fait rien sans avoir révélé les choses. Vous voyez ? Et je crois que c'est important, mon frère, ma sœur, et je m'y mets dedans, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent avoir une relation, une communion avec lui, qui soient proches de lui. D'ailleurs, quand Jésus a choisi ses disciples, la Bible dit qu'il en établit 12 pour les avoir avec lui. Dieu nous veut avec lui. Et Dieu ne pourra dire des choses, ne pourra révéler des choses qu'à ceux qui sont avec lui, qu'à ceux qui sont proches de lui, qu'à ceux qui ont une communion, une relation avec lui. Vous révéleriez-vous des choses intimes de votre vie à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Moi, non. Hein. Moi, je n'irai pas raconter certaines choses à quelqu'un que je connais très peu. Mais Dieu, il fait pareil. Hein. Dieu, il fait pareil. Il ne va pas révéler des choses à des gens qui... Mais à qui j'ai, lui? Un homme proche du Seigneur. Et ma prière, quand je lis ça, c'est dire, ben, Seigneur, je veux avoir cette communion avec toi parce que de toute manière, tu sais tout, tu connais tout. Alors Seigneur, je veux être un proche. Dieu nous appelle à être un proche, des proches. Voyez. Et puis, troisième chose qui m'interpelle dans ce texte, vous avez remarqué que deux fois, au verset 5 et au verset 6, il est dit à propos de cette femme, elle se donnera pour une autre. Elle se donnera pour une autre. Cette expression, elle m'a interpellé. Vous savez, je crois que ça nous enseigne une chose, c'est qu'avec Dieu, ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant. De jouer aux chrétiens, ça ne sert à rien. Hein. De faire le spirituel, moi j'appelle ça de faire le TTS, même le supra-TTS, vous voyez, le supra très très spirituel, ça ne sert à rien. Parce que, vous voyez, de se donner pour un autre, vous voyez. La leçon de tout ça, c'est que quelque part, mieux vaut être vrai avec Dieu. Mieux vaut être vrai avec Dieu. Hein, être honnête, être sincère. Hein, que plutôt que de vouloir se donner un rôle, de vouloir se déguiser, de vouloir faire semblant, de se donner pour un autre, il vaut mieux être sincère avec Dieu. De faire celui qui est intéressé alors qu'en fait on s'en fiche pas mal. Ça ne sert à rien de se donner un rôle, de se donner une image. Ça ne sert à rien parce que Dieu le voit. Voyez. Et ce matin, si j'ai un conseil à nous donner, je m'y inclus dedans, mais s'il y a un secret pour réussir avec Dieu, oui, ben, s'il y en a un, c'est celui-là, être vrai. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont vrais. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont parfaits, qui ne commettent jamais d'erreurs, qui ne se trompent jamais, qui ne se plantent jamais. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui, malgré leur manque, leur plantage, je ne sais pas si ça se dit, mais au moins vous comprenez, mais ben, sont vrais pour dire, ben, Seigneur, oui, ben, là je me suis planté, je le reconnais. Je le reconnais. Et si peut-être ce matin, en entendant ce message, vous dites, oula, c'est... Ouh. Mais si peut-être ce matin, on sent dans notre cœur qu'il y a des choses, ça ne va pas, quoi. Ben, ce matin, sois vrai. Et dis-lui, Seigneur, je sais que ça ne va pas. Je sais que telle chose, ça ne va pas. Je sais que telle façon de fonctionner, ça ne va pas. Je sais ce que dit la parole, je sais, mais bon, jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours trouvé peut-être un prétexte, quelque chose. Alors, Seigneur, je viens devant toi, je te demande pardon. Être vrai, être honnête, être sincère. S'il y a un secret, c'est celui-là, vous voyez. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont vrais. Rappelez-vous, je prends un autre exemple. Rappelez-vous de Judas. Alors Judas, on connaît bien l'histoire, il a quand même été choisi par le Seigneur. Et à un moment donné, il y a un texte, chaque fois que je le lis, je me dis, mais... Et pourtant, mais ça, c'est des choses qui se retrouvent encore aujourd'hui. Regardez Jean chapitre 12. On connaît bien ce texte. Hein, cette femme qui vient, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est beau quand même. Elle y met son cœur. Vous voyez, elle y met son cœur. Vous voyez, Dieu cherche des hommes et des femmes qui mettent leur cœur. Et un de ses disciples, tiens, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Oh, c'est beau, hein ? Ah, c'est magnifique, hein ? Waouh, quel spirituel, ce Judas ! Hein ? Si vous vous arrêtez là, vous dites « Il est spirituel, Judas, hein ! Oh, finalement, il est bien, le gars !» Ouais, sauf que vous avez le verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait tout ce qu'on y mettait. Eh ben, vous voyez, il jouait un rôle, quoi. Il jouait un rôle. Il se faisait passer pour un autre, il se faisait passer pour le très spirituel, pour celui qui pensait aux pauvres, mais les pauvres, ils s'en fichaient pas mal. Lui, ce qu'il voulait, c'était s'en mettre dans les poches. Vous voyez, s'en mettre dans les poches. Vous voyez, le problème de Judas, et ça a toujours été celui-là, c'est qu'il n'a pas été vrai avec le Seigneur. Il n'a pas été vrai. Et vous savez, quand on n'est pas vrai avec Dieu, je répète, je n'ai pas dit parfait. J'ai dit, mais quand on n'est pas vrai avec Dieu, ça finit toujours mal. Ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, ça casse. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. Prenez même Abraham, le père des croyants. Là aussi, quand il dit de Sarah, c'est ma sœur. Oh là là. Alors c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Mais voyez, quand je dis, vous avez des gens qui disent ce qui les arrange, ben vous avez un cas là. Et pourtant, c'est Abraham, le père des croyants. Ah oui, c'est ma sœur. Oui, oui, c'est vrai que c'est ta sœur. Mais c'est aussi ta femme. Mais ça, tu ne le dis pas. Vous voyez ? Et heureusement, dans cette affaire, vous la connaissez pour la plupart, heureusement que dans cette affaire, Dieu est intervenu, parce que ça allait mal finir. Hein. Si Dieu n'était pas intervenu, ça aurait très mal fini pour Abraham. Et c'est Abraham, le père des croyants, vous voyez. Il vaut mieux être vrai. Il vaut mieux être vrai avec le Seigneur. Et ce matin, on est là devant lui, mais le message, vous l'avez compris, il est simple. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne sont peut-être pas parfaits, ça on le sait, ça c'est pas un scoop, mais qui soient vrais. Dire, Seigneur, ben écoute, c'est vrai, je me suis planté, c'est vrai, là, je n'ai pas fait comme j'aurais dû, peut-être ça fait longtemps que c'est comme... Mais c'est vrai, Seigneur, je le reconnais. Parce que là, on peut bâtir. Quand on est vrai, on peut bâtir. Quand on fait le lézard, vous voyez, on fait le caméléon, ça ne peut pas fonctionner. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le caméléon fait partie des animaux impurs hein, dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas pour rien, il y a tout un message. Vous voyez, le caméléon, il s'adapte hein, à son environnement. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des caméléons, quoi. Dieu ne veut pas qu'on soit des caméléons. Et regardez, ça va même plus loin, cette vérité qu'on a lue là. Nulle créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de ceux-là qui nous devons rendre compte. Dans le psaume 139, ça sera le dernier verset, et tu as fini, Jérémie. C'est David qui va dire ceci. Ce psaume 139, c'est celui où il est dit « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ?» Dit autrement, ça ne sert à rien de fuir. Vous voyez ? Mais il y a un verset, je ne m'étais jamais arrêté dessus, et là ça m'a interpellé. Regardez, psaume 139, verset 12. « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » Vous vous rendez compte ? Même là, même les ténèbres, Dieu y voit. Même là. Même ce qui est opaque. Vous savez, des fois, vous avez des... C'est opaque. Vous n'y voyez pas trop. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous voyez Mais même là, Dieu y voit. On peut mettre des vitres fumées teintées à notre voiture hein, pour pas qu'on nous voit dedans. Hein, peut-être les autres ils verront pas qui c'est qu'il y a dedans, mais Dieu lui voit. Hein. Même si c'est bien noir, bien fumé, bien. Vous voyez, mais c'est un peu ça, je prends cette image-là, mais j'ai rien contre. J'ai pas été voir sur le parking s'il y avait des. J'ai pas vu. Mais pour vous dire, même les ténèbres ne sont pas obscures. C'est pour nous dire que même là, Dieu voit. Même ce qui est dans ce qui est sombre, dans ce qui est noir, dans ce qui est. Même là, Dieu est au clair. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de se cacher. Ça ne sert à rien de faire semblant, il vaut mieux être vrai. C'est pour ça, et je terminerai par là, c'est pour ça que j'ai relié cette vérité de Hébreux 4.13 à la prière de David. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Parce que si j'ai réellement compris cette vérité-là, tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais je ne pourrais pas faire autrement que de dire, Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Hein. Peut-être que je m'adresse aux amis, ce n'est pas la peur. Hein. C'est le respect, c'est l'amour pour le Seigneur. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir ce respect, cet amour pour lui et avoir ce désir de rien faire qui le déplaise, qui l'attriste, qui le peine. Vous voyez, c'est ça avoir la crainte de Dieu. Et si j'ai réalisé pleinement cette vérité de Hébreux 4.13, je ne pourrais pas faire autrement que de dire « Seigneur, mais dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Parce que, Seigneur, s'il n'y a pas ça dans ma vie, mais ça ne pourra pas aller. ça pourra pas aller. Voyez, ce matin, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. Mais je crois que c'est important de se rappeler une chose, c'est que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu entend tout. Même ce qui se fait, ce qui se dit là, un petit peu dans un coin là, en catimini, en petit comité restreint, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Alors Seigneur, je veux vivre une vie avec ton aide qui soit en conformité. C'est important. C'est important parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on se présentera devant Dieu et là, tout sera mis à nu. Hein. Donc je préfère le faire avant, qu'on le fasse tous les deux. Et c'est pour ça que c'est bon de venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, ben écoute, voilà, tu vois, il y a eu ça, je te demande pardon. Moi, ce matin, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais le but de tout ça, c'est de dire, Seigneur, ben, je viens à toi tel que je suis ce matin. Tel que je suis, je ne veux rien cacher. Si peut-être il y a des choses, on en a un peu honte, on sait très bien que ça ne va pas, ben, amène-le lui ce matin devant Dieu, dire, Seigneur, je ne veux pas me cacher, parce que ça ne sert à rien, tout est nu à découvert devant toi. Tu le vois, je peux le cacher, le maquiller, le dissimuler, je peux me déguiser, je peux faire ce que je veux. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Alors, Seigneur, je veux mettre tout en lumière. De toute façon, un jour ou l'autre, tout sort. Tout sort. Alors Seigneur, je veux être vrai avec toi. Je veux être vrai avec toi. Et ma prière, c'est que vraiment les uns et les autres, on puisse apporter notre cœur au Seigneur. Dire, Seigneur, voilà, je mets tout devant toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Secours-moi. Aide-moi, Seigneur. Et peut-être ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire, Seigneur, ouais, oui, il y a ça, ça ne va pas. N'aie pas peur de lui dire. Justement, ce matin, c'est une occasion, comme Élisée avec Géasi, quand tu lui as dit, mais tu viens d'où ? Eh bien, Seigneur, peut-être ce matin, te dit, ça va ? Ça va ? Comment tu te sens ce matin ? Si tu lui dis, non, c'est bon, tout va bien. Ben, ouais. Mais peut-être tu louperas une occasion de dire, ben non, Seigneur, ça va pas. Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a eu ça, ou parce que là, j'ai dérapé, ou parce que là, j'ai mal parlé, ou parce que là, j'ai... Ben, dis-le lui ce matin. Et tu vas sortir libéré. Pardonné, relevé, pas condamné en tout cas, et parce que Dieu t'aura pardonné. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner. Et le but c'est ça ce matin, c'est pas qu'on sorte avec le paquet sur le dos avec lequel on est rentré, mais c'est qu'on sorte libéré. Et le Seigneur ce matin est là pour nous libérer. Alléluia. Et je crois que c'est tellement important. Il y a ce chant, il y a ce vieux chant là. Tu peux me le mettre ? Alors je connais pas les paroles par cœur, mais on le connaît, les plus anciens, ils connaissent ce chant, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Voyez, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens. Et ce matin, le Seigneur attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise, ben, Seigneur, je viens tel que je suis, sans rien cacher. Je vais pas continuer à faire semblant. Je viens, Seigneur. Et alors le Seigneur va pouvoir te bénir, le Seigneur va pouvoir te relever. Et peut-être ce matin, ce sera l'occasion de prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Alors viens. Mais ça, je ne peux pas le faire pour vous, je peux le faire pour moi. Mais que ce matin, on puisse le faire. Alors, si vous voulez bien, peut-être on va prier. Après, c'est entre nous et Dieu. C'est entre nous et Dieu. Mais est-ce que vous permettez, vous pouvez le prendre avec moi, on va le prendre à capella, hein, ce chant-là, tel que je suis. On va prendre la première. Et la dernière strophe, hein, voilà. Hein, on le chante vraiment comme une prière, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Après, c'est entre toi et Dieu. Après, c'est entre nous et Dieu. Moi, ce que je voudrais ce matin, c'est que ce soit juste l'amorce pour réfléchir à cela. Et si peut-être c'est pas là, mais peut-être ce soit dans ta chambre, dans ton bureau, bien, viens devant le Seigneur et dire, ben, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Je cache plus, j'arrête de maquiller, ça sert à rien. Seigneur, libère-moi. Et le Seigneur va le faire. Alléluia. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, sans rien, on peut rien cacher, Seigneur, je veux rien cacher, Seigneur, et Seigneur, je remets tout devant toi, Seigneur. Tu sais mieux que personne où nous en sommes, chacun pour notre part. Et je te demande, Seigneur, vraiment de nous aider les uns et les autres à être vrais avec toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que malgré ce que nous sommes, Seigneur, tu ne cherches pas des hommes et des femmes parfaits et parfaites, mais des hommes et des femmes qui veulent te dire, me voici, Seigneur, je viens. Seigneur, bénis peut-être celui qui est accablé ce matin. Bénis peut-être celui qui est découragé ce matin. Peut-être celui qui est peut-être jusqu'à aujourd'hui dans une voie, Seigneur, de garage. Peut-être dans une voie, Seigneur, en train de s'égarer, Seigneur. Je te prie vraiment de le bénir, de parler à son cœur et que peut-être ce matin, il puisse tout dévoiler devant toi. Il puisse tout mettre devant toi, Seigneur. Tout mettre à la lumière, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas là pour rejeter, mais tu es là pour tendre la main. Alors Seigneur, oui, que tu puisses trouver des hommes et des femmes qui te disent, Seigneur, ce matin, je viens tel que je suis. Seigneur, étends tes mains, c'est toi qui convainc par ton esprit. Merci pour l'œuvre que tu fais dans le cœur, dans un cœur. À toi soit toute la gloire ce matin. Je te le demande au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va juste prendre quelques instants, quelques secondes. Voilà, je vais embêter personne, je vais mettre personne mal à l'aise, mais je voudrais peut-être aider quelqu'un ou quelques-uns. Si vous avez besoin de la prière, moi après c'est entre vous et Dieu. Simplement, vous levez à votre place et on va prier le Seigneur. Voilà, par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais si quelqu'un a besoin qu'on prie, voilà. Après, vous levez, c'est un acte de foi et c'est devant Dieu que vous le faites. C'est pas pour moi. Hein. Mais voilà, on va prier maintenant au Seigneur de vous aider. C'est un moyen aussi de vous soutenir et de vous aider. Voilà, alléluia. Hein. Et en même temps, Dieu le voit ce geste. Dire Seigneur, je me lève parce que voilà, j'ai besoin. Alléluia. Seigneur, tu vois, c'est bien aimé.